News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 27 octobre 2022, c'est l'événement Capitales Vertes Européennes aujourd'hui et demain au Palais des Sports de Grenoble.
On est de retour donc en direct du Palais des Sports, deux jours, Capitales Vertes Européennes aujourd'hui et demain. Il y a une grande exposition qui est présentée donc dans ce Palais des Sports. Et on vous l'a dit aussi sur le plateau précédent avec le collègue Christophe, ce soir, il y aura, j'ai envie de dire, la nomination de la nouvelle Capitale Verte Européenne 2024 cette fois-ci, parce que la 2023 elle est déjà élue, j'ai envie de dire, elle est déjà élue, puisqu'il s'agit d'une ville en Estonie qui s'appelle Tallinn, je crois. Bref, Sana, ça va?
Ça va, et toi, Grégo?
Écoute, très bien, on a pris ton créneau cet après-midi.
Il n'y a pas de souci, c'est pour une bonne cause, donc ça vaut le coup.
C'est pour la bonne cause. Ouais. On a une deuxième plateau donc avec nos exposants. Nous avons avec nous Mathilde Karlskind, chargée de communication à Ulysse Solidarité 38. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
On parlera de la thématique produire et consommer autrement, justement, avec vous.
Tout à fait.
Nous avons Rebecca Bilon, directrice du Muséum de Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
On parlera de la thématique nature et biodiversité avec vous. Et puis, nous accueillons Stéphane Azikian de l'entreprise Polustock. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et on parlera de la thématique eau. Voilà, puisqu'on n'y est pas encore venu jusqu'à maintenant. Alors, pour cette exposition, pour ces deux grandes journées, déjà, on va présenter un peu vos structures à chacun. Je veux bien, si tu veux y aller, Mathilde.
Oui.
Donc, pour Ulysse Solidarité 38.
Alors nous, du coup, donc on est Ulysse Grenoble Solidarité. On fait partie du groupe Ulysse qui favorise l'accès à l'emploi. Donc on a plusieurs structures et donc Ulysse Grenoble Solidarité rassemble des activités de ressourcerie, un atelier de production et un chantier de rénovation bâtiment second œuvre. Voilà, donc aujourd'hui on est venu présenter l'activité qui est la ressourcerie. Donc nous on a deux boutiques sur Grenoble, on a la brocante de Mamie qui est à Saint-Martin-d'Hère et Grenoble Solidarité qui est dans le quartier de la Capuche, donc rue Hippolyte Müller. Alors juste pour expliquer en quelques mots ce qu'est une ressourcerie, c'est un endroit où vous pouvez trouver des objets de seconde main, donc des objets que vous avez chez vous, que vous n'utilisez plus, des vêtements, des livres, jouets, etc. Nous on récupère et de notre côté on revalorise et on le revend dans nos boutiques à tout petit prix pour favoriser l'économie circulaire et favoriser l'emploi également, puisque les salariés qui travaillent chez nous sont en parcours d'insertion. On les accompagne tout au long de leur parcours sur de la formation et sur aussi comment revenir sur de l'emploi classique.
Il y en a eu de plus en plus de ces types de ressourceries, de boutiques depuis quelques années. Je sais pas, ça fait combien de temps tu...
Alors nous, du coup, Ulysse Grenoble Solidarité, la toute première boutique, elle existe depuis 84. Voilà. Alors Brocante de Mamie, c'était sous une autre structure auparavant, mais c'est aussi très historique. Voilà, donc sur la métropole. Et ça continue. Donc.
Très bien. Très bien. Je passe la parole à Stéphane Azikian, l'entreprise Polustock. De quoi il s'agit?
Alors Polustock, c'est une entreprise qui s'est fixé un défi en 2009 de préserver les mers et les océans, avec une mission qui est très précise, c'est intercepter tous les polluants d'origine humaine qui pouvaient venir contrarier et détruire le milieu naturel.
Il y a du boulot.
Alors, le boulot, il est titanesque.
Il y a du taf, il est titanesque.
Ouais, il est titanesque. Et ce qui a été le plus dur, comme je dis, c'est pas une performance technique. Avant tout, c'est une performance humaine. Parce qu'il a vraiment fallu s'attaquer à beaucoup de déni. On était face à des gens qui nous disaient, mais non, vous êtes des illuminés, il n'y a pas de problème, c'est vous qui inventez toutes ces histoires, etc. Donc ça a été vraiment l'axe le plus difficile. Il a fallu vraiment s'accrocher.
Parce que c'était pas encore aussi sensible à cette époque-là.
Il n'y avait pas du tout de sensibilité.
Il n'y avait pas du tout de sensibilisation, sensibilité autour de...
Pas du tout. Enfin, il y avait des études qui étaient menées. Ouais. On savait qu'il y avait un problème, évidemment. Mais tout ce qui était, on va dire, mesures correctives, vraiment attaquer le problème... En fait, nous, on se bat tous les jours contre l'aspect anxiogène de ces problèmes-là. En fait, on nous dit, oui, de toute façon, c'est foutu, c'est des millions de tonnes, on s'en sortira jamais. Et nous, on dit, non, c'est juste une question de volonté. Il faut juste avoir envie d'agir. Et on est tous, sans exception, vraiment la solution. C'est tous ensemble qu'on va pouvoir résoudre ce problème-là. Et Polystock n'est qu'une partie de cette solution. Voilà, c'est ce message qu'on a voulu faire passer. Et on va dire que les prises de conscience vraiment réelles, c'était à partir de 2015. Donc de 2009 à 2015, ça a été très difficile.
Ça a été vraiment les farfelus qui... Oui, vous partez dans un délire, quoi.
Oui, délire.
Oui, oui, moi je voulais poser une petite question. Je voulais savoir, depuis que vous avez commencé à intervenir là-bas, est-ce que ça a changé un petit peu les cours de choses ou non? Il y a toujours des...
Alors, ça dépend ce qu'on appelle changer le cours des choses. Nous, depuis 2009, on a intercepté 500 tonnes de déchets. Alors, c'est beaucoup, c'est peu par rapport au problème.
C'est qui se déverse dedans, ouais.
On sait que c'est 10 millions de tonnes de déchets qui se déversent tous les ans dans les mers et les océans. Donc, 500 tonnes, c'est peu. Mais comme je dis, si déjà nous, à notre toute petite échelle, on est capable d'intercepter 500 tonnes, si on s'y met tous, dans 10 ans, le problème n'existe plus.
C'est-à-dire tous les pays ou...
Bah, déjà que la France soit exemplaire, déjà, ça sera déjà pas mal. Et après, voilà, qu'on donne l'exemple et qu'on apporte notre expertise dans le reste du monde. Et ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous.
Mais est-ce que vous avez l'idée de tous ces déchets? Ça vient d'où exactement?
Alors, ça a été la première étape de la sensibilisation. C'est qu'en fait, à l'époque, on pensait que les déchets venaient du trafic maritime. Donc on a étudié ça, on s'est rapproché d'experts et on a voulu identifier l'origine réelle des déchets. Aujourd'hui, on le sait, 80% des déchets viennent de terre. 20% de déchets résiduels, façade littorale et trafic maritime. Donc c'est infime, c'est pas là où il faut s'attaquer au problème. C'est là où il y a les 80% de déchets. Mais d'où viennent ces déchets? Par où ils transitent? Et on a commencé à identifier que ces déchets transitaient par les réseaux d'eau pluviale. Ensuite, on a découvert les déversoirs d'orage. On a découvert les réseaux unitaires, à la fois l'eau pluviale, à la fois l'eau usée. Donc, on a commencé à comprendre les mécanismes de cette pollution. Et à partir du moment où on a compris la mécanique de la pollution, on a commencé à comprendre où il fallait agir. Et donc, on a inventé un filet, qui est aujourd'hui assez médiatisé, qu'on met au bout d'un réseau d'eau pluviale ou d'un déversoir d'orage, qui est un piège à déchets, tout simplement.
C'est donc vous, ce gros filet qu'on a bien rempli au bout des
c'est déversoirs. Ça, c'est moi.
Ok, c'est cool.
C'est cool.
Rebecca, pardon, Bilon, directrice du Muséum de Grenoble, rebonjour. Alors, du coup, bah voilà, le Muséum de Grenoble et sa présence aujourd'hui et demain.
Alors nous, on est un musée d'histoire naturelle qui dépend de la ville de Grenoble. Donc on travaille en partenariat notamment avec les collègues du service Nature en Ville que vous avez entendu tout à l'heure. Et on est un lieu qui se situe dans le Jardin des Plantes, à Grenoble, pour ceux qui connaissent, qui vise à déjà qui a deux missions. La première, c'est de conserver un patrimoine naturel qui représente en fait les archives et une bibliothèque de la biodiversité. Donc c'est des spécimens naturalisés, des insectes, des herbiers, qui racontent plein d'histoires sur l'histoire de la vie, sur l'évolution, sur pourquoi on en est arrivé là, les relations entre l'être humain et les autres espèces. Et puis bon, donc on conserve ce patrimoine, et notre deuxième mission, ça va être de transmettre toutes les connaissances qu'on a sur ce patrimoine à tous les publics.
À travers des expositions, des ateliers, des rencontres.
Alors oui, on a une exposition actuellement qui est vraiment un sujet capital verte qui s'appelle Nos voisins les vivants.
Nos voisins les vivants, oui.
Voilà, donc qui raconte l'histoire de nos relations avec les autres vivants, les autres espèces vivantes. On parle notamment de pollution. Et on a aussi toute une action culturelle avec des actions de médiation, des visites, des conférences, des projections de films pour tous et toutes.
Alors... Au vu de ces deux journées, de cette grande exposition, qu'est-ce que vous proposez au Palais des Sports? Je vais repartir sur Mathilde. Qu'est-ce que vous proposez?
Alors nous, du coup, on échange avec le but, c'est d'échanger du coup sur la partie ressourcerie, le réemploi. On est là aussi pour présenter Fabrica Nova, qui est du coup une SIC sur laquelle on est sociétaire et qui a pour but à l'horizon donc 2023, printemps 2023, de créer un espace unique de réemploi sur la métropole où les Grenoblois et métropolitains pourront amener en fait leurs différents dons. Donc on est venu présenter ça, il y a une exposition qui montre un petit peu tous les métiers qui existent dans ces structures, parce que les structures de Fabrica Nova sont toutes en lien avec le réemploi. Voilà, donc on est venu communiquer sur le réemploi principalement et sur nos actions.
Très bien, et je sais pas, est-ce que peut-être les auditrices, auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous aurez besoin de nouvelles mains, de...
voilà.
Alors nous, on est toujours en recherche de bénévoles, effectivement, à la ressourcerie pour aider nos salariés au tri, à la mise en rayon, et également des personnes pour nous représenter sur des salons, des forums ou des journées comme aujourd'hui, pour parler de nous et diffuser justement ce discours d'économie circulaire et d'emploi aussi, puisqu'on accompagne donc les personnes. Pour la remise à l'emploi. Ouais. Et du coup, j'en profite juste pour dire aussi sur Fabrique à Nova qu'en ce moment, il y a un pop-up à République, juste en face du Monoprix dans le centre-ville, côté de l'office de tourisme, tout à fait. Une boutique éphémère où est présent les ateliers Marianne, Emmaüs, Cycle & Go, et puis nous-mêmes sur de la décoration. Voilà, donc vous avez des vêtements, des vélos et des créations aussi des ateliers Marianne. Donc allez y jeter un œil, ça vaut le détour.
Jusqu'à quand il y a ce pop-up?
Alors, c'est jusqu'au 24 décembre.
Très bien.
Donc,
cool.
Voilà.
On a du temps.
Oui, mais du coup, pour préparer un Noël plus responsable, c'est vrai que ça peut être intéressant, le volet ressourcerie et cette boutique, ouais.
Paul Hustock, Stéphane, sur cette exposition, qu'est-ce que vous proposez? Peut-être faites savoir ce que vous faites ou...
Alors, on est ici pour une simple raison, c'est qu'au-delà des solutions, il y a de la sensibilisation. Quand on est face à un filet qui est rempli de plusieurs tonnes de lingettes, par exemple, parce qu'on parle beaucoup de plastique, mais il faut parler d'autres problèmes. Les lingettes, aujourd'hui, c'est un problème majeur dans le milieu naturel, pour une multitude de raisons. Quand on est face à un filet dans lequel il y a une tonne et demie de lingettes, on peut pas rester indifférent. On peut pas se dire que c'est normal et que oui, j'ai mis un filet, je suis content. Donc notre démarche, elle va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, une entreprise à mission, elle doit atteindre un objectif. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de résorber cette pollution. Donc quand on est ici, c'est pas pour convaincre qui que ce soit. Je pense que la métropole ou la ville de Grenoble ont déjà montré qu'elles étaient capables d'agir, donc on va pas chercher à les convaincre. Par contre, on va sensibiliser le public. Donc la journée la plus importante pour nous, c'est demain. Parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque individu a une part de la solution. Et quand je voulais dire ça, c'est que le petit geste qui peut paraître insignifiant, des fois on me dit « oui, mais c'est rien, moi j'ai jeté un mégot par terre ». Oui, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a 30 milliards de mégots qui sont jetés tous les ans au sol en France. 30 milliards. Donc un mégot, oui, tout seul, c'est rien. Mais 30 milliards, c'est une catastrophe environnementale. Donc on est là pour ça, sensibiliser.
Oui, Stéphane, excuse-moi, parce que c'est la deuxième fois que je te pose des questions, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, la pollution. Mais voilà, vous avez parlé de sensibiliser le public et tout, mais qu'est-ce qu'il en est où avec les fabricants de tous ces objets, en fait? Parce que nous, bon, bien vrai qu'on est des consommateurs, mais les gens qui fabriquent, quel est le message que vous adressez à ces entreprises-là, en fait?
Alors, ta remarque, elle est très importante. Alors, moi, je pense que déjà, la première étape, c'était de prouver la réalité de la pollution. On l'a dit, ça a été fait.
Ouais, non, ça a été fait quand même.
Ça a été fait. Non, mais ça a été fait. Ça a été fait. Aujourd'hui, quand on lève un filet, on a à peu près 400 filets installés en France et dans le monde. Quand on lève un filet, tu peux pas nier la réalité de ce qu'il y a dedans.
Tout à fait.
Ok, ça c'est la première étape. Après, on a fait un énorme travail qui était un travail de caractérisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris les déchets, on les a jetés dans une décharge. On a ouvert les filets et on a tout trié. Et quand tu commences à trier, tu as les noms des fabricants, tu as raison, qui polluent. Majoritaire. Alors, je veux pas les citer là. Ça se fait pas.
Des fois, je pense qu'il faut les citer.
Voilà, peu importe. on a des coupables. On sait maintenant les identifier. Et derrière, ces données-là, elles permettent de faire un travail de lobbying. Alors, ça, c'est pas Polystock, c'est des associations qui font ça. C'est Surfrider, c'est VVF, c'est Greenpeace. Eux, on leur donne nos données à nous. Et eux, ils font du lobbying avec. Et ça commence à réagir. Alors, pour répondre à ta question, ça commence depuis très peu de temps. Un an.
Ah oui.
C'est très récent. Voilà.
En tout cas,
et là, il y a une prise de conscience vraiment
chez
des fabricants.
Ouais. Voilà. Ah ouais. Énorme. Ouais.
En tout cas, moi, je pense que ça devait commencer par là-bas, en fait. Mais bon, c'est déjà bien que ça arrive.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, parce que voilà, on nous parle beaucoup de bio et tout. En tant que consommateur, nous, quand on part dans les marchés, on regarde d'abord ce qui est dans notre portefeuille. Donc voilà, on aimerait bien consommer bio, mais des fois c'est plus cher que ce qui n'est pas bio. Et ce qui n'est pas bio, c'est ça qui pollue plus. Donc nous, on va prendre ce qui est moins cher. Donc voilà quoi.
Je suis d'accord.
Rebecca, Votre présence aujourd'hui du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble sur cette exposition, sur ces deux journées.
Oui, alors on présente deux choses, c'est pas le bon terme, mais voilà, deux dispositifs. Le premier, c'est un minuscule échantillon de nos collections. Donc dans une vitrine, on va trouver des spécimens. Parce qu'on a 3 millions de spécimens en collection, on pouvait pas tous les emmener. Donc voilà. Et ces spécimens ne ont pas été choisis par hasard. Ils illustrent la diversité des espèces et du vivant sur le territoire du département de l'Isère, donc en particulier sur les espaces naturels sensibles. Et par exemple, on a une cistude d'Europe qui est un bon exemple de l'impact que peut avoir, par exemple, l'urbanisation sur le vivant, puisque la cistude, avant, on en trouvait... Donc c'est une tortue, hein, la cistude, pour ceux
Merci.
Qui ne savent pas.
Parce que j'étais à deux doigts de taper
sur mon téléphone. La cistude, c'est une tortue aquatique. Et en fait, on la trouvait avant à Saint-Martin-d'Hère et à Grenoble, et maintenant, on la trouve plus du tout. Donc voilà, c'est un peu un exemple de l'effet que peut avoir notre vie à nous, des êtres humains, sur le reste du vivant. Voilà, donc les spécimens. Et puis l'autre dispositif, ce sont des photos qui ont été prises par un artiste qui s'appelle Laurent Gélin et qui a fait un safari urbain à Grenoble pendant 21 jours et 21 nuits pour photographier la vie hors être humain homo sapiens sur Grenoble. Donc pour un peu réenchanter notre rapport à la ville et pour montrer que on n'est pas tout seul en fait. Il y a aussi des oiseaux, des insectes, des plantes, des amphibiens.
On est tous colocs.
C'est ça.
Sur ce plateau, c'est intéressant parce que on a un cycle là avec le réemploi des choses pour produire moins de déchets, pour consommer autrement, donc moins polluer les eaux et moins tuer les êtres vivants, on va dire. Est-ce que quand même on pourrait avoir un petit mot positif de ce qui a été fait, parce qu'on sait très bien que au niveau planétaire la situation est plus que grave et très grave, quoi. Donc, est-ce qu'il y a quand même des points positifs qu'on pourrait se donner, là ? Merci,
c'est tout pour nous.
Bon, on rend l'antenne.
Moi, je vais dire oui, il y a des points positifs.
Oui, bah oui.
Fallait laisser un peu le suspense, quand même.
Ah ouais, mais là,
le coup prétombe.
Ah ouais, c'était chaud, là.
T'étais tout seul, là.
Ouais, j'étais tout seul. Moi, j'ai failli
non,
partir.
Mais c'est vrai que dans les échanges qu'on a sur des événements grand public, il y a quand même une prise de conscience des gens qui est, enfin voilà, de plus en plus. Et donc, ils veulent consommer autrement. Donc maintenant, il faut leur donner les solutions. Mmh. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. On leur apporte des solutions pour pas continuer dans cette voie. Mmh. Hein, je pense que c'est...
Oui, mais je suis d'accord. On va reprendre un peu le cheminement de ce que j'ai dit aussi sur notre histoire. En fait, déjà, les paliers de prise de conscience, nous, on les voit. C'est très clair. On peut même les dater. Et derrière ça, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut bien comprendre que nous, par exemple, nos filets, on fait pas que ça, mais si on parle de ce sujet-là, qui est quand même un sujet important, les filets, les collectivités n'ont aucune obligation de les mettre. Faut le savoir. La loi ne les oblige pas à mettre des filets. Donc, quand une collectivité met un filet, c'est que quelqu'un dans la collectivité a une prise de conscience. Et ça, c'est un message qui est très fort. Jusqu'en 2015, on a posé à peu près 120 filets. Là, on est en 2022, on en a posé plus de 400. Donc on voit la montée en puissance justement de la prise de conscience. Alors, ça c'est positif pour moi et ça c'est un message d'espoir qui nous donne de la force.
Bien sûr.
Rebecca. Oui, bah, si je prends l'exemple de notre exposition Nos voisins les vivants, donc elle a ouvert seulement samedi dernier, donc on n'a pas encore énormément de recul, mais déjà on aborde un sujet qui est difficile, qui peut être anxiogène, et on se rend compte que les gens ils viennent s'informer et ils ne rejettent pas ce qu'on leur propose comme contenu. Et en fait, on leur offre à la fin de l'exposition un espace d'expression et on voit qu'ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie de s'engager aussi, on leur offre cette possibilité de s'engager. On a un partenariat avec La Poste là-dessus où ils s'écrivent une lettre à eux-mêmes. Et donc, on voit que les gens jouent le jeu et dans quelques mois, ils recevront chez eux les engagements qu'ils auront voulu prendre pendant l'expo. Et ils le font, ils jouent le jeu. Donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est en train de se faire et voilà.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent au...
Oui, alors au Muséum de Grenoble, on a environ 80 000 visiteurs par an en moyenne. Donc
c'est déjà pas mal.
Ah oui, c'est énorme même. C'est énorme même. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aussi collègue Sana. On va pouvoir vous libérer aussi. En tout cas, c'était très très intéressant et bravo pour chacune des initiatives, des dispositifs mis en place. Et voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde demain pour venir voir tout ça et parler un peu avec vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, vous contacter, parler un peu?
Alors nous, on est sur tous les réseaux et on a un site internet qui est le www.ulysse38.com.
Bah, nous, il suffit de taper Polystock et en fait, on est un petit peu visible.
ça veut dire que ça va péter dans l'écran tout de suite.
Pareil, Muséum de Grenoble sur un moteur de recherche Google ou autre.
Yes, merci beaucoup.
Et merci de nous donner la parole.
Merci à tous les trois. On va faire une grande pause les amis, on va rester tout en musique dans l'après-midi. On se retrouvera à 17h avec un autre plateau, cette fois-ci avec un focus institutionnel sur l'implication des collectivités et la démarche de territoire. À tout à l'heure.
News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 27 octobre 2022, c'est l'événement Capitales Vertes Européennes aujourd'hui et demain au Palais des Sports de Grenoble.